Tout le monde est assis.
Vas-y, Clément.
Alors, nous avons la joie de recevoir ce soir le père Jean-Philippe Fabre, qui est docteur en théologie biblique et directeur des cours publics au Collège des Bernardins, qui vient nous parler ce soir de l'accomplissement de la parole des prophètes.
Super. Merci, Clément. Alors, je voudrais ce soir vous parler un peu, effectivement, accomplissement des prophéties, des termes qui sont souvent un peu obscurs pour nous. Derrière ça, il y a toute la question du lien entre ces deux grands corpus de textes que sont l'Ancien Testament d'un côté et le Nouveau Testament de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'accomplir les Écritures ? Jésus le dit au chapitre 5 de Matthieu, hein, il dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi et les prophètes ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, dans cette notion d'accomplissement ? On va regarder les textes tranquillement pour essayer de voir ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. Il en va, j'en discutais tout à l'heure à table, notamment avec Faustine, il en va derrière ces termes-là de choses qui sont toutes bêtes, mais quand on dit qu'il faut que Jésus accomplisse les Écritures, ou il fallait que les Écritures s'accomplissent, derrière ça, il y a toute la question, bien sûr, de la liberté de Jésus. Si le programme est écrit, en gros, il n'y a plus beaucoup de liberté là-dedans. S'il faut absolument que Jésus se conforme à ce qui a été prévu par le paternel pendant des centaines d'années, quel est l'enjeu de la liberté? Alors, on le verra plutôt à la fin, ça. On va commencer au début. Mon idée, c'est de se dire, Jésus dit qu'il accomplit d'abord la loi et les prophètes. Donc, il semble que, dans sa façon de voir les choses, il découpe en deux, déjà. La loi et les prophètes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses-là, derrière la loi et les prophètes, quand Jésus dit je viens accomplir la loi et les prophètes? Probablement vous savez, mais je vais redire des choses qui sont à la fois simples et qu'il est bon de savoir, qu'il y a derrière ça le découpage le plus fondamental de l'Ancien Testament, qui se découpe globalement en deux, voire peut-être en trois, mais disons surtout en deux, la Torah. La Torah, c'est le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, voilà, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, la Torah, qui va s'appeler la loi au demeurant de façon un peu injuste, parce que Torah, ça veut dire, le verbe yara, c'est ce qui montre une direction, c'est ce qui instruit quelqu'un, c'est ce qui va lui montrer un chemin en quelque sorte. Et voilà, alors il se trouve qu'en grec, quand on est passé de l'hébreu au grec, on l'a appelé la loi, mais il y a plus que ça derrière la Torah. Voilà. Donc vous avez la Torah d'un côté, et c'est à ça que Jésus fait référence quand il dit « il faut que j'accomplisse la loi ». Voilà, la Torah. Et puis d'un côté, et de l'autre côté, il y a les prophètes. Alors si vous vous souvenez un tout petit peu votre catéchisme fondamental, vous dites mais moi j'ai appris qu'il y avait quatre parties dans l'Ancien Testament, il y avait les livres, il y avait effectivement le Pentateuque, les livres historiques, les livres prophétiques, et puis les autres livres, les autres écrits autour des psaumes, on dit souvent les écrits de sagesse, même si tout n'est pas là-dedans que de la sagesse, voilà, donc les... En fait, je vais vous montrer pourquoi on peut vraiment dire qu'il y a deux grandes parties au fond dans la Torah, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. La loi, c'est en quelque sorte la prophétie fondamentale. La loi, la Torah, elle a dans l'Ancien Testament, elle est à l'Ancien Testament ce que les évangiles serait au nouveau, en quelque sorte. On parle des évangiles, on parle de l'excellence de la révélation. Dans le Nouveau Testament, on sent bien que ces quatre évangiles ont une place d'excellence et que la suite est un complément. Mais les évangiles ont un statut à part. C'est pareil dans l'Ancien Testament. Il y a vraiment la Torah qui est, au fond, ce qu'il y a de plus fondamental. Puis les autres écrits. Alors, on découpe, je vous dis, en deux, trois ou quatre. Moi, je vais pour le moment rester surtout sur la prophétie. Il y a aussi d'autres écrits sur les prophètes. Mais d'abord, vous voyez, ça veut dire que dans les prophètes, Jésus met, comme le font les juifs de son époque et comme le font les juifs aujourd'hui, à la fois les livres historiques et les prophètes tels que vous les connaissez, autour d'Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les 12 petits prophètes, et puis Daniel, qu'on met souvent par là, parfois à tort, voilà. Et donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée que, déjà, dans la tête d'un bon juif, il n'y a pas que les prophètes tels qu'on les connaît avec un prénom connu qui sont prophétiques, l'histoire elle-même est prophétique. Et on va parler des prophètes antérieurs pour des livres que vous connaissez peut-être et qui racontent l'histoire depuis l'entrée en terre promise. Josué, Juge, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, bah tout ça pour un bon juif, tout ça c'est déjà les prophètes, ce qu'on appelle les prophètes antérieurs. Et puis vous avez à côté de ça les prophètes postérieurs, qui ceux-là sont ceux qui ont un nom, en gros, hein, pour faire simple. Voilà. À bien réfléchir les choses, on pourrait se dire, bon ok, si je vais vous parler de l'accomplissement de la prophétie, ou l'accomplissement des prophéties, c'est donc que je vais vous parler de l'accomplissement de la deuxième partie, des prophètes, l'histoire et puis les prophètes auteurs, si vous voulez. En fait, pour bien comprendre les choses, il faut se dire que la loi, la Torah, c'est la prophétie fondamentale. C'est-à-dire, c'est la première parole. Qu'est-ce qu'une prophétie ? Pour faire simple, une prophétie, c'est pas quelqu'un qui annonce par avance ce qui va se passer, c'est pas d'abord ça. Prophétie, c'est une parole de la part de Dieu. D'accord ? C'est une parole de la part de Dieu. Et celui qui est vraiment le prophète par excellence, c'est Moïse. Et Moïse, où est-ce qu'on le trouve ? Dans la Torah. Il prend même 4 des 5 livres de la Torah. Il naît au début de l'Exode, donc au début du deuxième livre. Il meurt à la fin du Deutéronome, c'est-à-dire à la fin du cinquième livre. Il n'y a guère que le premier livre, la Genèse, où il n'est pas dedans. Mais dans la tradition juive, il va être tellement présent Moïse que finalement, d'abord on va dire que c'est lui qui a tout écrit. Voilà, il est l'auteur de la Torah. Il en est l'auteur, peut-être ceux d'épigraphe, si vous voulez, c'est-à-dire que on sait bien qu'au fond, c'est pas lui qui a tout écrit, mais peu importe. Ce qui importe, c'est qu'il est identifié à la Torah, à tel point que on va parler de la Torah de Moshe et qu'on va pouvoir dire parfois, à propos de Moïse, Jésus dira : qu'est-ce que Moïse vous a dit ? Ça veut dire qu'est-ce qui a marqué dans la Torah ? D'accord, hein, voilà, c'est pas forcément Moïse qui l'a dit comme ça, si vous allez voir, c'est parfois Dieu qui l'a dit, ou voilà. Mais quand qu'est-ce que Moïse vous a dit, ça veut dire qu'est-ce qui a marqué dans la Torah. Donc vous avez Moïse, et Moïse, il est, alors on va le regarder à 2 endroits dans le Deutéronome, mais il est celui, par excellence, qui va parler de la part de Dieu. Je prends Deutéronome 5, juste avant le décalogue. Nous est présentée la mise en scène de ce décalogue. On nous dit « Moïse convoqua tout Israël et leur dit ». Alors, on est à quel moment le Deutéronome, dans votre petite mémoire, le Deutéronome, c'est un livre qui se veut le dernier jour de la vie de Moïse et qui est, au fond, vous voyez, juste avant de rentrer en terre promise. Donc, on est à ce moment-là. Moïse parle au peuple. C'est 40 ans après les 40 ans de désert. Donc c'est 40 ans après le mont Sinaï, là où il a, rappelez-vous, reçu la loi. Qu'est-ce qu'il dit ? Donc Moïse convoque le peuple 40 ans plus tard. Et il leur dit « Écoute Israël, les lois et les coutumes que je prononce aujourd'hui à vos oreilles, apprenez-les, gardez-les pour les mettre en pratique. Le Seigneur, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. » Il y a 40 ans. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous-mêmes qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Il est en train de dire, la parole que vos pères ont reçue quand ils ont reçu la loi il y a 40 ans, elle est encore valide aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le prophète par excellence. Le prophète, il est là pour dire ce que Dieu a dit. C'est pour vous aujourd'hui. Il est celui qui actualise la parole de Dieu. Vraiment. Et ce à quoi on rajoute, sur la montagne, au milieu du feu, le Seigneur vous a parlé face à face. Moi, je me tenais entre le Seigneur et vous pour vous faire connaître la parole du Seigneur. Ah, ça, c'est le prophète. C'est celui qui se tient entre Dieu et le peuple pour dire ce que Dieu dit, c'est valable pour vous aujourd'hui qui êtes ici tous présents, comme le dit le texte. D'accord ? Ça, c'est le prophète. Et notre ami Moïse, et c'est là que ça va commencer à être intéressant, il nous est dit quelque chose au chapitre 18, c'est Dieu qui parle au chapitre 18 du même Deutéronome. Dieu dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Donc Moïse est en train de... Dieu est en train de dire à Moïse « Tu es prophète, mais j'en aurai un qui est semblable à toi. Il y en a un autre qui va venir derrière. » Et c'est ça que je voudrais essayer de vous faire pressentir, c'est que quand Moïse parle, il sait très bien qu'au fond, il n'achève pas encore la prophétie. La prophétie est inachevée. Il y aura un autre prophète qui viendra semblable. Et la Torah va vraiment se lire comme un livre qui est en attente, qui est inachevé. La mort de Moïse en Deutéronome 34, qui est racontée dans le Deutéronome, la mort de Moïse, elle se passe, on nous le dit, juste de l'autre côté du Jourdain. C'est là que Moïse mourut, serviteur du Seigneur. Voilà. Et vous le savez, Moïse meurt juste avant l'entrée en terre promise. Ça veut dire que Moïse meurt alors qu'il y a encore des choses à accomplir. L'au-delà du Jourdain, c'est qu'il y a encore des choses à accomplir. La Torah est un livre en attente, et en attente d'un passage qui est le passage du Jourdain. D'accord ? Donc déjà, la Torah se vit, c'est ça que je voudrais vous faire sentir, la Torah se vit comme un livre qui n'a pas achevé les choses. Et elle a une forme de complétude qui est liée à la vie de Moïse, mais quand Moïse meurt, la Torah se ferme. Je vous ai dit que Moïse et la Torah, c'était la même chose. Quand Moïse meurt, la Torah se ferme. Et Moïse, on ne connaît pas son tombeau. C'est ce qui nous est dit ici. Hein. C'est Dieu lui-même qui l'enterra. Voilà, il avait 120 ans. Et c'est Dieu lui-même qui l'enterra. Et on ne sait pas où est son tombeau. Pourquoi ? Parce que le seul mémorial que Moïse va laisser, c'est à nouveau la Torah. Donc voilà, ça c'est une première chose à voir. Le premier corpus de l'Ancien Testament se vit lui-même en attente d'un accomplissement. Il y a quelque chose qui doit venir après. Je vous fais remarquer tout de suite que cette attente d'accomplissement, il se passe juste de l'autre côté du Jourdain. Vous avez à peu près votre géographie, hein, je suppose. Hein, mais si je vous la donne, vous avez la Méditerranée, vous avez le Jourdain qui coule de l'autre côté, la Terre promise, c'est ce qui est entre les deux. Et le Jourdain, il coule globalement depuis le nord, il passe par le lac de Tibériade, il descend et il arrive à la mer Morte. Et Moïse meurt juste au nord, mais quand il meurt, il est encore de l'autre côté. Le Jourdain, c'est la frontière symbolique, mais aussi quelque peu littéraire, finalement, entre la loi et les prophètes, entre avant la Terre promise et après la Terre promise. D'accord ? Voilà. Donc la loi, la Torah, ce livre, je pourrais vous y renvoyer assez grandement, mais c'est vraiment un livre qui va se vivre en attente. Alors il y a quand même une chose que Moïse va prévoir, comme il est prévenu de sa mort, il va quand même faire une ou deux choses avant de mourir, et je les mets là. Au chapitre 31 là, du Deutéronome, au verset 9, hein, « Moïse mit cette loi par écrit, la donna aux prêtres, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'Alliance, et il leur dit, tous les sept ans, au temps fixé pour l'année de la remise, lors de la fête des tentes, au moment où tout Israël se rend pour voir la face du Seigneur son Dieu, tu prononceras cette loi aux oreilles de tout Israël. » Donc Moïse, avant de partir, prévoit deux choses. La première, c'est que la loi puisse être relue régulièrement. Il prévoit la pérennité de cette loi, de la Torah, d'accord ? Mais il va prévoir aussi, parce qu'on lui demande de le prévoir, un successeur qui sera Josué, et qui sera celui qui fera passer le peuple au début du livre de Josué, qui fera passer le peuple du Jourdain et il passera de l'autre côté. Josué, il est en quelque sorte le symbole de l'avenir. Et il est aussi celui qui montre que, qu'en fait la Torah était en attente, il faut quelque chose derrière. Ouais. Josué, il est le successeur. Voilà. Il sera même appelé par le Sirassi de Josué prophète, qui viendra après. Ça, c'est une première chose qui est importante. Ensuite, du coup, quand on quitte la Torah, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans ce qu'on appelle la prophétie, les prophètes. Donc on commence par les prophètes antérieurs. Je passe, j'aime bien parfois voir les pages. J'ai fini la Torah ici à gauche et à droite, je commence les prophètes antérieurs, c'est-à-dire le livre de Josué, des juges, de Samuel et des rois, dans lequel la Bible chrétienne a inséré le livre de Ruth à cet endroit-là. Voilà, la Septante l'a fait à cet endroit-là. Mais disons que évidemment il y a ces six livres. Que racontent ces six livres ? Toute l'histoire. Depuis l'entrée en terre promise jusqu'à l'exil. En gros, pour faire simple, 13e siècle, ce sixième, début du 6e siècle, ça raconte toute cette histoire-là, progressivement. Et dans cette histoire, on rencontre des prophètes, mais qui n'ont pas écrit des livres. Vous en connaissez au moins trois, à peu près. Samuel, prophète qui va instaurer la monarchie, qui va oindre notamment Saül et David, et puis Élie et Élisée, dont le ministère prophétique, qui n'auront pas écrit l'un et l'autre, mais Élie va devenir finalement la figure du prophète errant la plus caractéristique. Certes, Moïse était le prophète fondamental, mais en quelque sorte, il a une sorte de doublure. Élie, c'est l'autre Moïse. C'est le Moïse qui se réactualise. On ne croit pas dans la réincarnation, bien évidemment, mais vous voyez, Élie, qu'est-ce qu'il fait ? Alors ça va être intéressant pour nous. Élie, il va à l'Horeb, il passe 40 jours et 40 nuits, il parle à Dieu quasiment face à face dans la montagne, alors pas avec le gros tonnerre, mais dans la voix d'un doux silence, comme on dit. Voilà. Élie, c'est le double de Moïse. D'accord ? Et il va devenir en quelque sorte l'idée que Moïse, il n'est pas fait pour rester dans son passé, qu'il doit y avoir des prophètes qui, en accord profond avec la Torah, la Torah devient la règle, si vous voulez, de la règle de foi, mais des prophètes qui vont redire la parole de Moïse aux différentes générations. Par excellence, Élie. Mais finalement, tous les prophètes qu'on aura, Isaïe, Jérémie, ne cesseront que de dire « Soyez fidèles à la Torah de Moïse ». D'accord ? Alors, je pose les personnages ici. Et donc, je vous ai posé le personnage de Moïse. Je vous pose le personnage maintenant d'Élie, à côté de celui de Samuel, à côté de celui d'Élisée. Vous allez voir pourquoi je vous pose tout ça là maintenant. Dans ces livres prophétiques, dans cette histoire prophétique, en fait, l'histoire, elle va être écrite par une plume qui est la même que celle du Deutéronome, on l'appelle l'histoire deutéronomiste. Voilà. Cette plume qui écrit a aussi pleinement conscience, au fur et à mesure que l'histoire s'écrit, que cette histoire, elle n'est que prophétique d'un temps à venir. Elle se vit, on la raconte pas pour elle-même cette histoire, on la raconte pas pour la faire mémoire, on la raconte parce qu'on comprend que cette histoire, elle est elle aussi en attente d'un accomplissement. Et donc on relit l'histoire comme étant en attente d'un accomplissement. Je vous lis ça par exemple, un des textes les plus connus, les plus massifs, c'est 2 Samuel chapitre 7. Dans 2 Samuel 7, on est à un moment où David vient d'arriver à Jérusalem. Il a installé son palais, un beau palais. Il a toujours l'arche d'alliance qui est quelque part sous la tente. Et puis, il ne sait pas très bien quoi faire de cette arche d'alliance qui est sous la tente. Il le dit d'ailleurs, je vous le prends. Sa question, elle est là. Quand le roi habita sa maison, David, et que le Seigneur lui eut accordé le repos alentour, il dit au prophète Nathan, « Vois, j'habite une maison de cèdre, L'Arche d'Alliance habite sous une tente de toile. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, Nathan lui dit, bah, fais ce que tu veux. Alors, ça n'a pas l'air d'être la vie du bon Dieu, ça. Donc, la nuit même, la parole du Seigneur dit à Nathan, oh, du calme, mon garçon, tu vas aller dire à David la chose suivante. Hein. On va pas aller trop vite là-dedans. Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite? Vraiment, voilà, j'ai jamais habité de maison depuis le jour où j'ai été fait monter du pays d'Égypte hein, jusqu'à aujourd'hui. Je cheminais sous une tente, hein, et pendant tout le temps où j'ai voyagé avec tous les Israélites, est-ce que j'ai dit à un seul des juges d'Israël que j'avais institué comme pasteur de mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Alors maintenant, voilà, tu vas parler comme ça. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, c'est moi, dit Dieu, pour David, hein, c'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour être chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais. J'ai supprimé devant toi tous tes ennemis. C'est moi qui te donnerai un grand nom. Voilà. Est-ce toi qui vas me bâtir une maison? Non, non. C'est moi qui ai l'initiative, mon garçon. Hein, voilà. Et voilà, je l'y planterai. Il demeurera à cette place. Il sera plus ballotté. Voilà. Je t'ai accordé le repos face à tous tes ennemis. Hein. Alors, quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles, et j'affermirai sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, j'affermirai pour toujours son trône royal, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Alors de qui parle-t-on immédiatement? On parle sans doute de Salomon, le fils de David, qui bâtira le temple, hein, qui pourra le faire. Mais vous voyez bien que dans ce texte-là, et toute la tradition juive va le dire ainsi, il y a au fond l'attente, là aussi, cette fois aussi non plus d'une figure prophétique comme pour Moïse, mais d'une figure royale. Et on attend quelqu'un qui pourra être dit fils de David. C'est tellement le cas que dans la tête de dans la tradition juive, quand on dit de quelqu'un qu'il est le fils de David, qu'on attend le fils de David, on attend le Messie. Donc vous voyez, on attend un prophète, on attend un Messie, un fils de David, quelqu'un qui recevra l'onction royale. Donc et on commence à en dire un peu les traits de cette personne-là. Et ce serait quelqu'un qui va construire une maison pour Dieu, qui va être fils de Dieu, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Alors on ne peut pas encore parler de filiation par nature ici, c'est sont un peu tôt, mais enfin, il y a quand même l'idée, vous voyez, on se dit, il y aura quand même quelqu'un qui va venir, qui sera aussi roi. Voyez. Alors on attend un prophète depuis Moïse, on attend ici un roi. Vous voyez bien que les choses se font avec l'idée qu'on est en attente, d'accord? Et je continue à avancer là-dedans pour arriver peut-être à... oui, je vais y arriver tout de suite, puisque ce sera aussi bien. Ben, aux autres prophètes, donc on a regardé la partie des prophètes antérieurs. Vous voyez que les prophètes antérieurs, ce qu'on appelle l'histoire d'Israël, hein, ce que j'ai appelé l'histoire d'Israël, se vit elle aussi en attente. On attend quelqu'un qui va venir accomplir tout ça. D'accord? Il y a quelque chose qui va venir accomplir tout ça. Et puis, vous allez avoir dans les prophètes auteurs, cette fois-ci, ceux qui ont écrit, vous allez avoir là aussi des vrais textes d'attente. Des textes, je ne vais pas tous vous les lire, mais je vais vous en lire deux. Le premier texte d'attente le plus frappant, c'est sans doute Jérémie 31-34, ce qu'on appelle l'oracle de la Nouvelle Alliance. Il est important celui-là, il est tellement important que c'est la plus longue citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Vous le retrouvez intégralement dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, les versets 8 à 12, intégralement. C'est un oracle majeur. C'est un oracle qui est tellement majeur que c'est le seul oracle, même le seul endroit de l'Ancien Testament où vous allez avoir l'expression « Berit Hadassa », c'est-à-dire « Nouvelle Alliance ». Ah, Nouvelle Alliance. Alors, allons-y. J'y vais, j'arrive chez Jérémie, qui doit pas être très loin, le voilà. 31 à 34, on le connaît quasiment par cœur. Hein. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, dit Jérémie, où je conclurai, donc vous voyez, il parle d'un avenir, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, donc l'alliance de Moïse, hein. mon alliance qu'eux-mêmes d'ailleurs auront pu, bien que je fusse leur maître. Hein. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, au règne du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est la troisième chose pour laquelle on est en attente. Hein. Vous le voyez, on est en attente, petit un, d'un nouveau prophète qui sera comme Moïse. Donc Moïse permettra de le reconnaître. On est en attente d'un fils de David qui aura Dieu pour père. Et on est en attente d'une alliance nouvelle qui ne pourrait être conclue finalement que par le Moïse nouveau. Quand on dit alliance, c'est Moïse essentiellement, pas que, mais dans l'Ancien Testament. D'accord ? Donc vous voyez, on est en attente. Et finalement, la Bible elle-même, je vous ai dit, je vous citerai deux prophètes, je vais aller chercher le deuxième avec Malachi, c'est le texte que vous connaissez par cœur, le père Florent, je vous rassure. Voilà. Comment se termine tout ça ? Alors là, vous voyez, je ne peux pas être plus à la fin, je vous dis que je vous montrerai le livre de temps en temps. Vous avez à gauche la fin de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la fin des prophètes, hein, c'est Malachi, le dernier des prophètes, hein, et à gauche, et à droite, pardon, vous avez le Nouveau Testament qui commence. Je ne peux pas être plus à la fin. D'accord ? Et qu'est-ce que j'ai ici à la fin ? Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur. Ah, donc là, on est à la fin des prophètes. En fait, si vous aviez le tout début de la lecture, de la littérature prophétique avec, avec Josué, Josué, on a ça en Josué 1:8, hein, rappelle-toi la loi de Moïse. Donc vous voyez, en fait, les prophètes sont encadrés par la loi de Moïse. D'accord ? Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur que j'ai prescrit à l'oreille pour tout Israël des lois et des coutumes. Dernier verset, les deux derniers versets. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'anathème. L'Ancien Testament se termine sur la figure d'Élie qu'on attend. Alors on sait qu'il est déjà venu, hein, mais pourtant on l'attend. Donc ouais, l'Ancien Testament est en attente. Ça, c'est essentiel. À ce propos, où est-ce qu'il est parti, Élie ? Ben, si je regarde un peu de géographie, Élie, rappelez-vous, reprenez le tout début du deuxième livre des rois. Élie sera en train de se promener avec Élisée. Ils arrivent au niveau de Jéricho, donc de ce côté-ci du Jourdain. Ils passent de l'autre côté du Jourdain. Et puis là, Élie a un char qui vient le chercher et qui s'en va au ciel. Ça veut dire qu'Élie, il termine son parcours au même endroit que Moïse est mort, au même endroit que Moïse. D'accord ? Au même endroit. C'est-à-dire où ? De l'autre côté du Jourdain. Donc en fait, vous voyez, la loi, si la loi c'est Moïse, la loi s'est achevée de l'autre côté du Jourdain. Les prophètes s'achèvent aussi en quelque sorte avec Élie qu'on attend de l'autre côté du Jourdain. Et ce, à la toute fin, je ne peux pas être plus clair pour vous dire, et l'un et l'autre sont en attente d'un passage du Jourdain, d'une entrée dans la vraie terre promise. Alors, elle a été cette entrée comme symbolisée par deux personnes dont le nom est très proche de Jésus, au demeurant, Josué, Yeshua, c'est le même nom que Jésus, hein, qui est passé comme successeur de Moïse, mais Josué est une figure très terne par rapport à Moïse, et Élisée, lui aussi, va revenir exactement de la même manière, c'est-à-dire en frappant les eaux pour pouvoir passer le Jourdain, comme Josué a frappé les eaux, enfin avait mis l'Arche d'Alliance pour passer le Jourdain. L'un et l'autre, et Josué comme Élisée sont des figures de successeurs et qui sont là pour dire, on attend le vrai successeur. Alors, pour que le vrai successeur arrive, on attend donc le vrai Moïse, on attend le vrai Messie, voilà, on attend. Tout est en attente, d'accord ? Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est exactement cet endroit-là, donc je suis toujours avec mon Jourdain, au nord de la mort, c'est exactement cet endroit-là qu'on va retrouver un certain Jean-Baptiste qui baptise de l'autre côté du Jourdain, donc il reprend le flambeau. Jean-Baptiste, il reprend le flambeau. Alors, qu'est-ce qu'il est dit de la naissance de Jean-Baptiste ? Et là, je vais aller dans Saint-Luc. quand l'ange Gabriel apparaît à Zacharie pour lui dire qu'il va avoir un fils, comment il lui parle de son fils? Il lui dit, bah, ta femme Élisabeth va t'enfanter un fils, tu l'appelleras du nom de Jean, tu auras joie et allégresse, beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il sera rempli d'Esprit Saint, et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Exactement la même expression que Malachie 3. Que dit tout simplement le début de Luc? C'est que, en fait, cet Élie qui doit revenir, c'est bien Jean-Baptiste. Or, quel était le rôle d'Élie? C'était, je vais retourner à Malachie 3, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur. Ben, si Élie est là, en la personne de Jean-Baptiste, c'est que le jour du Seigneur est arrivé. D'accord? Il est sur le point d'arriver. Le précurseur est là. D'accord? Et de fait, pour bien le confirmer, quand Jésus lui-même, en descendant de... En discutant avec ses disciples, parle de Jean-Baptiste, il leur dit, les amis, on est au chapitre 11, tous les prophètes ont, ainsi que la loi ont mené leur prophétie jusqu'à Jean, et si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit venir. Donc, voyez, au fond, on a bien la confirmation que ce qui était en attente dans l'Ancien Testament, et c'est pour ça que j'aurais presque pu insister avant d'arriver sur Jean-Baptiste déjà. Et l'Ancien Testament, c'est à la fois un corpus qui est clos, qui a son autonomie, qui a sa réalité, mais c'est un corpus qui est complètement en attente de quoi? De l'acte final du salut. Il est là, il sait qu'il est. La prophétie se clôt avec Malachie. Toute la tradition juive le dit, la Torah a été close avec Moïse, tout est clos, et pourtant, on est bel et bien en attente d'un acte final du salut dans lequel il y aura quelqu'un qui sera prophète comme Moïse, qui sera comme un fils de David, qui va venir donner une nouvelle alliance. D'accord? Donc, au fond, et ça c'est important, ouais, c'est pas le Nouveau Testament qui décrète qu'il vient perfectionner l'Ancien. C'est l'Ancien Testament qui a décrété qu'il lui faudrait un Nouveau Testament. En grec, pour ceux qui font du grec, j'en ai parlé tout à l'heure avec Fabien, là, diatheke, c'est à la fois le testament et l'alliance. On dit nouvelle alliance, mais Nouveau Testament, c'est pareil que nouvelle alliance. D'ailleurs, l'ancienne alliance, elle a été, c'est le testament de Moïse, finalement, l'ancienne alliance, et la nouvelle alliance sera le testament de Jésus, l'alliance de Jésus. Voilà, alors une fois qu'on a bien compris ça, on va voir qu'au fond, maintenant on va commencer à comprendre comment est-ce que, du côté du Nouveau Testament, on va avoir besoin, du coup, de l'Ancien pour dire les choses. Et ça va être extrêmement important, c'est qu'en fait, tout ça s'est préparé, non pas simplement pour faire un peu d'histoire avant que Jésus arrive. Hein. Vous le voyez bien, en fait, on va faire de l'Ancien Testament la clé de lecture indispensable pour comprendre la Nouvelle Alliance. Tout l'Ancien Testament est au fond la clé de lecture interprétative et anticipative de l'événement Jésus-Christ qui sinon aurait été incompréhensible sans sa profondeur historique. Et Jésus lui-même, alors je vais rester un peu chez Luc, j'aurais pu vous rester chez Matthieu parce que vous savez que Matthieu c'est celui qui a le plus de citations d'accomplissement, ceci advint pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Isaïe ou par le prophète Jérémie, voilà. Mais au fond, celui qui utilise le plus la figure prophétique, c'est vraiment Saint Luc. Alors, où est-ce que ça commence? Ça, d'abord, voilà, dans les premiers chapitres de Luc, vous les avez en tête, c'est les évangiles de l'enfance tels qu'on les aime bien, l'Annonciation, la Visitation, la naissance de Jésus. Tout ça, déjà, ça nous est raconté à la manière de la naissance du petit Samuel. Vous avez vraiment une sorte de jeu littéraire que je n'ai pas le temps de vous démontrer. Mais Anne aussi avait eu, la mère du petit Samuel, elle avait eu aussi une visite. Et puis elle avait aussi eu un cantique très proche du Magnificat. Et puis voilà. Et il y a vraiment déjà l'idée que Jésus naît à la manière d'un prophète, rien que littérairement. Hein, on va pouvoir avoir ici. Ce que Jean-Noël Aletti appellera une sorte d'anthologie, de lecture anthologique. Mais surtout, quand Jésus commence son ministère, qu'est-ce qu'il fait quand il commence son ministère, Jésus? Il arrive à la synagogue de Nazareth, et puis il va lire un passage qui lui est donné. Il déroule un livre, il est dans la synagogue un jour de sabbat, hein. Et puis qu'est-ce qu'il va lire? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Un petit passage d'Isaïe dans lequel on parle précisément du Messie. L'onction, C'est ce qui fait le Messie. Hein. Malheureusement, en français, le terme Messie est très laid. On l'appelle loin, L'OINT, donc forcément, on ne l'utilise jamais. Mais donc, on utilise Messie, qui est le mot hébreu, ou Christ, qui est le mot grec, mais tout ça, c'est la même chose. Bah, quand on a un texte qui marque « L'onction du Seigneur est sur moi », et donc Jésus referme le livre, et il fait une homélie remarquable, parce que c'est à la fois... Elle a deux qualités. La première, c'est qu'elle part des Écritures. La deuxième, c'est qu'elle est brève. Voilà. Il s'assoit, les yeux sont fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, aujourd'hui, comme Moïse, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Donc, Jésus vient actualiser l'Écriture. D'accord ? Il n'y a rien de plus simple. S'accomplit à vos oreilles. Accomplissement des prophéties. Façon de dire, de façon, mais il aurait pu dire je suis le Messie quand même, non? Eh ben non, il va simplement faire une sorte de, on pourrait dire, de caractérisation indirecte. Il dit, ça s'accomplit à vos oreilles. Est-ce que vous saurez reconnaître que c'est moi le Messie? Mais il dit pas, c'est de moi que ça parle. Il dit, ça s'accomplit à vos oreilles. En fait, la question de l'accomplissement, elle est la question de la reconnaissance. Est-ce qu'on va reconnaître en Jésus, celui qui vient accomplir les Écritures? Et tout de suite après, Jésus va ajouter, vous allez me dire, me citer ce dicton, guéris-toi toi-même, ce qui est arrivé à Capharnaüm, fais pareil ici. En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. Et là, Jésus va également s'appeler prophète lui-même, en quelque sorte, sans dire que c'est de lui qu'il parle, mais il va donner un critère de reconnaissance du prophète. Le prophète, c'est celui qui n'est pas bien accueilli chez lui. Et ce critère qui est donné dès le début va se déployer complètement. Alors, pour dire ce critère, que va faire Jésus? Il va dire, voyez, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour 3 ans et 6 mois, et quand survint une grande famine sur tout le pays, et c'est à aucune d'elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta. Et donc, que fait Jésus? Il donne comme critère de reconnaissance ce qui est arrivé à Élie. Et puis pareil, ce qui est arrivé à Élisée également. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Aucun ne fut purifié, mais bien à Naaman le Syrien. Donc, vous voyez comment Jésus lui-même va utiliser de façon oblique les Écritures pour qu'on le reconnaisse à la manière d'un prophète, comme fut Élie, comme fut Élisée. On peut dire que la typologie, puisqu'on va parler de typologie, la typologie d'Élie, elle est à la fois en Jean-Baptiste, mais elle est aussi en Jésus. Et c'est Jésus qui met en place lui-même le fait qu'on ne pourra le reconnaître qu'en passant par les Écritures. Et là, il aurait pu dire la chose plus évidemment, pour permettre au chemin de liberté de se faire. C'est comment est-ce qu'on va le reconnaître, voilà. Et cette question de la reconnaissance de Jésus comme prophète rejeté, elle va traverser l'ensemble de l'évangile de Luc. comme prophète, c'est la première partie, les chapitres 4 à 9. Hein, Jésus, il va guérir le fils unique d'une veuve, exactement comme Élie avait fait. Il va guérir un lépreux, exactement comme Élisée avait fait. Donc, il va faire les gestes pour qu'on le reconnaisse. À tel point d'ailleurs qu'on arrive au chapitre 7 de Luc, une fois qu'il a, il vient justement de ressusciter le fils de la veuve de Naïm, et puis on vient lui poser la question via Jean-Baptiste, est-ce que tu es celui qui doit venir, en gros le Messie, ou est-ce qu'on doit en attendre un autre, hein? Et puis à ce moment-là, il va guérir beaucoup de gens affligés, de malades, d'infirmes, voilà. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus leur dit, ben, voyez, je fais les gestes qui sont attendus du Messie. D'accord ? Il leur dit pas, je suis le Messie, il leur dit, regardez, regardez. Alors, est-ce qu'on va reconnaître en lui le Messie ? Alors, j'avance là jusqu'à une petite parabole que j'aime beaucoup parce qu'elle est très particulière dans l'évangile de Luc. Et c'est la parabole du mauvais riche et de Lazare. Vous la connaissez peut-être, cette parabole. Seule parabole, une parabole unique dans les évangiles, c'est la seule parabole dans laquelle il y a un prénom. Parce que toute parabole est nécessairement, en quelque sorte, anonyme. Un homme avait deux fils, un roi voulut régler ses comptes, un intendant, il n'y en a qu'une seule, c'est Lazare. Et c'est la seule des paraboles qui ne prend pas comme cadre de vie la vie ordinaire. Un semeur est sorti pour semer la semence, voilà. Mais qui va prendre comme cadre la vie après la mort. Donc c'est une parabole très particulière. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais ça vaut le coup de travailler ça. En revanche, je vais m'arrêter sur, vous savez, le riche. Là-haut, là, ça se passe pas très bien pour son matricule, voilà. Donc, il voudrait que ça se passe pas comme ça pour ses frères. Donc, il dit à Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père. J'ai cinq frères qui leur donnent son témoignage. Et Abraham de dire, bah, tu sais, ils ont Moïse et les prophètes. Pas moi qui l'invente, hein. Moïse et les prophètes, la loi et les prophètes, la Torah et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Ah non, 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 père Abraham. Mais s'il y a quelqu'un qui ressuscite, ils se repentiront, hein, voilà. Et Abraham de lui dire, du moment qu'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. La résurrection, elle convainc personne. Elle convainc personne. Mais un type ressuscite, ok, on a des choses extraordinaires, vous en avez tous les jours sur YouTube, des choses incroyables. Il n'y a pas besoin que l'incroyable ne convainc pas. Ça stupéfie quelques instants. Qu'est-ce qui va donner de la profondeur, de l'épaisseur à l'événement Jésus ? C'est précisément tout ce chemin qui va se faire en permanence entre l'Écriture et l'événement. Il va falloir qu'on regarde. Regardez comment après la résurrection, quand on nous dit que Jean rentre dans le tombeau, là, le disciple bien-aimé rentre dans le tombeau, on nous dit il vit et il crut. Ah oui, bah oui, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu ? Pas grand-chose. Mais vraiment, il vit, il crut. En effet, il n'avait pas compris jusque-là que d'après les Écritures, il devait ressusciter entre les morts. D'après les Écritures. Ce qui fait que le disciple bien-aimé comprend, c'est qu'il fait un lien, une cohérence entre ce qu'il est en train de voir là, un tombeau vide, et les Écritures. Et c'est ça qui va donner de l'épaisseur. Alors si je continue et j'avance là, et je vais finir à l'heure, malgré le fait qu'on n'a pas commencé à l'heure, et ce n'est pas faute de la part du père Florent d'avoir... essayez de vous bouger, hein. Mais je suis très frustré parce que j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais c'est pas grave, on fait un très beau parcours quand même, enfin, j'espère. Enfin, moi, je me régale. Voilà. Voilà. Et à partir de là, quand Jésus se retrouve avec les disciples d'Emmaüs, il est là avec les disciples d'Emmaüs, ils ne le reconnaissent pas. Qu'est-ce que fait un type normal ? Coucou, c'est moi, regardez, puis en plus, il y a les trous et tout, voilà, comme il a fait à chaque fois. Au cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse, vous savez ce que c'est maintenant, c'est-à-dire la Torah, et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus leur fait une grande leçon d'exégèse. Et alors, il a eu beaucoup plus de temps que moi pour la faire, parce que ça a été un trajet complet, puisque déjà, ils arrivent le soir baisse, hein, voilà. Et voilà. Et que disent ces mêmes disciples d'Emmaüs quand ils voient tout d'un coup Jésus disparaître, hein? Ils disent pas « Oh là, mais comment il a fait pour disparaître, hein? » Ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?» Ce qui va toucher en profondeur, c'est le fait que Jésus soit ressuscité selon les Écritures. Hein? C'est vraiment cela. Et c'est la leçon prophétique, c'est le fait que Jésus ait fait ce lien entre tout ce qui était de lui dans les Écritures, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, et le fait qu'il soit ressuscité. Je dis ça, vous voyez, pour qu'on soit bien convaincu, c'est un peu rapide, hein, mais pour qu'on soit bien convaincu aussi qu'au fond, la grande prophétie qu'est l'Ancien Testament nous permet de reconnaître le vrai prophète qui est Jésus, mais sans toutes les harmoniques vétérotestamentaires qui se déploient. Alors je vous en ai donné, mais pas assez. Je vous ai donné celle du prophète, je vous ai donné celle du prophète, je vous ai donné celle du roi, enfin du fils de David. J'aurais dû bien évidemment passer par la plus grande pointe, la plus merveilleuse de l'Ancien Testament, qui est la méditation sur le serviteur souffrant chez Isaïe, ou le juste persécuté des psaumes, hein, et qui permet de reconnaître vraiment jusqu'au bout qui est Jésus. Alors, peut-être je termine par ça. Celui qui va être le plus génial là-dedans, ça n'étonnera pas que je le dise ça, le père Florent, c'est vraiment Saint Marc. Parce que Saint Marc, il ne parle pas du tout d'accomplissement des Écritures. Et pourtant, il n'y a qu'un seul endroit où on trouve le terme, un seul dans Saint Marc. C'est le dernier que les apôtres entendent au moment où ça se passe mal. On est au chapitre 14 de Marc. Et là, alors que Jésus n'a jamais parlé d'accomplissement des Écritures, qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire comme il avait à le faire, ou à peu près, ben oui, sans doute d'ailleurs, voilà. La dernière chose, Jésus dit, voilà, suis-je un brigand que vous soyez mis en campagne? Il est donc dans le jardin des Oliviers, qui est le dernier endroit où les apôtres vont le voir, puisqu'ils vont fuir juste après. Hein, il va dire, chaque jour j'étais auprès de vous dans le temple, vous n'avez pas arrêté, mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. C'est le seul endroit. Et alors là, à partir de là, on n'a plus Jésus pour parler. Et Jésus dit, maintenant, c'est plus moi qui parle, c'est les Écritures qui parlent. D'accord? C'est les Écritures qui parlent. Et à partir de là, vous allez avoir, et c'est absolument incroyable, la reconnaissance, notamment du modèle du serviteur souffrant, du juste persécuté des Écritures. On va ligoter Jésus à la manière d'Isaac, et on va partager les habits comme dans le psaume 22. Et en fait, les Écritures vont parler. Et ça, c'est le coup de génie de Saint-Marc. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, au fond, raconter la vie de Jésus, c'est-à-dire la vie d'un type qui finit crucifié avec 10 lâches, un renégat et un traître parmi ses amis, il n'y a plus personne, un type qui finit sur la croix comme ça, c'est complètement aux antipodes de toutes les biographies antiques. Dans toutes les biographies antiques, le héros, à la fin, est reconnu comme un héros. Il y a l'anagnorisis finale, la reconnaissance finale, il est reconnu comme le héros. Comment est-ce qu'on peut faire reconnaître Jésus comme un héros? Puisque précisément, Jésus, il termine sur la croix et que ça se termine mal. La seule façon de le reconnaître comme un héros, c'était de trouver un modèle scripturaire, antique, un modèle d'interprétation de quelqu'un dont il était prévu justement que personne ne le reconnaîtrait. Et que c'est à ce que personne ne le reconnaîtrait qu'on pourrait le reconnaître précisément. Il y a déjà un tout petit peu ça chez Ulysse, au retour à Ithaque, là, et tout ça, mais vous l'avez de façon infiniment plus incroyable chez Jésus. En fait, le modèle du persécuté, eh ben, je reconnais que le persécuté est fils de Dieu parce qu'il était prévu que le fils de Dieu soit précisément le persécuté. Et donc le modèle de reconnaissance n'est pas du tout celui des vies parallèles de Plutarque avec César et ou la vie des 12 Césars de Suétone, César et Alexandre, ou avec les, voilà, on n'est pas du tout dans ce modèle-là, parce qu'on est dans le modèle d'une reconnaissance par les Écritures. Sans les Écritures, impossible de reconnaître qu'un crucifié puisse être fils de Dieu. Mais c'était préparé par le modèle du serviteur souffrant et du juste persécuté. Ça fait 3 fois que je dis que je termine, mais du coup je termine. Parce que j'ai quand même posé une question au début, mais quelle est la liberté de Jésus par rapport à ce modèle scripturaire? Au fond, est-il vraiment libre? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Il faut que les Écritures s'accomplissent. Est-ce qu'il a, s'il y a une nécessité qu'elles s'accomplissent, quelle est la liberté de Jésus? Alors là, il faut renverser le modèle. Le « il faut » ne porte pas sur le fait que Jésus doit faire ce qui est prévu, ce qui est écrit, mais sur le fait qu'il faut recourir aux Écritures pour le reconnaître. C'est là que se jouent les choses. En fait, je vais vous dire quelque chose qui est un peu à l'envers, mais dans le monde de Dieu, tout est possible. C'est pas Jésus qui doit faire ce que les Écritures ont prévu, c'est les Écritures qui ont été écrites en prévision de l'événement Jésus-Christ. C'est l'événement Jésus-Christ qui domine. Je vous prends l'exemple d'un... si vous allez profiter, pendant que vous êtes parisien, de temps en temps, même si c'est un peu cher, aller à l'opéra ou même à la comédie française. Quand vous allez à la comédie française, on vous remet un petit bouquin avant. Et c'est le programme. Ben, en fait, ce qu'il faut, c'est quand même que ce qui va se passer sur la scène corresponde au programme. Oui, mais c'est le programme qui a été écrit en vue de ce qui va se passer sur la scène et pas l'inverse. Vous avez le programme avant, mais c'est le programme, il a été écrit... voilà. Et ben c'est pareil pour les Écritures. Jésus, il a une liberté absolue là-dedans, et en quelque sorte ont été par la puissance de la révélation divine ont été donnés les éléments qui permettraient de reconnaître l'événement Jésus-Christ. Il faut lire l'Ancien Testament absolument pour connaître Jésus, sinon il n'y a pas d'accomplissement des Écritures et donc il n'y a pas de reconnaissance du crucifié. Voilà, c'était un peu rapide, hein, mais...
C'était formidable, merci. Bravo. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, hein, pas 36, mais une ou deux questions? Non? Ah si, une question.
Oui, pour rebondir sur cette affaire de la liberté de Jésus en fonction de ce qui est écrit. Est-ce qu'on peut faire un lien avec la fameuse phrase du Verbe qui se fait chair ? C'est quand Jésus, en tant qu'il a des actions, est également en fonction du Verbe qui s'est déroulé dans tout l'Ancien Testament ?
Oui, on peut le dire. On peut le dire. D'abord, il y a effectivement l'idée que la parole de Dieu est présente déjà dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'on a des semina verbi, hein, on peut le dire, des semences du Verbe qui sont déjà présentes. C'est-à-dire que Jésus est déjà présent. En fait, il est présent, c'est ce que diront les pères de l'Église, notamment dans toute leur typologie. Vous avez ça très bien développé dans Sacramentum Futuri de Danielou. C'est-à-dire qu'au fond... Isaac, la figure d'Isaac, par exemple, elle est écrite. Le vrai Isaac, c'est Jésus. Et en fait, la figure est plus faible que Jésus n'est pas simplement le nouvel Isaac, il est le vrai Isaac. Il n'est pas simplement le nouveau Moïse, il est le vrai Moïse, il est le Moïse accompli. Il est, voilà, et en fait, il est plus Moïse que Moïse, en quelque sorte. Voilà, on a ça, il monte sur la montagne lui aussi pour donner la loi nouvelle, mais sa loi est plus parfaite, elle est venue pour accomplir et pas pour abolir. Donc il y a vraiment ça, effectivement. Et de fait, toute la liberté de Jésus, elle ne s'exprime pas qu'au moment où il décide de descendre, voilà, même s'il est venu pour, il le dira, le Fils de l'homme est venu pour, et ce « est venu pour », c'est déjà le signe de toute sa liberté. Mais en fait, il y a cette liberté de Jésus du Verbe qui est présent dans toutes les paroles qui vont précéder le moment où le Verbe se fait chair pleinement. Ouais. Et c'est bien vu ça.
Ouais. Moi, j'ai pas une question, mais juste quelque chose que tu m'as fait mieux comprendre, c'est que finalement, tu me diras si je me trompe, mais lisant, relisant l'Ancien Testament et donc déchiffrant sans cesse mieux, reconnaissant sans cesse mieux que Jésus accomplit les Écritures, en fait, nous les accomplissons avec lui. Alors, tu vois, quand tu dis qu'on faut renverser le deuil, c'est que d'une certaine manière, Jésus n'est pas là comme un objet qui accomplit, mais dans l'accomplissement lui-même, il y a le fait que nous avons notre part du travail. Ça fait partie de l'accomplissement que Jésus soit reconnu par le travail de lecture de l'Ancien Testament. Jésus, c'est d'ailleurs la définition du salut. On ne peut pas sauver les gens sans qu'ils aient quelque chose à faire dans l'histoire. Ouais, je ne sais pas, c'est pas très bien, c'est un peu foutraque mon truc.
Mais non, pas du tout.
Mais en tout cas, ton histoire de cet renversement du deuil, en fait, qui m'intéresse. Ouais. C'est ça, j'essaie de redire autrement. Ouais.
Alors, on a un truc qui va dans ce genre-là, dans ce qu'on a eu il y a trois jours dans la première lecture des Hébreux. Après, vous savez, vous avez tout le chapitre 11, par la foi, Abraham a fait ci, par la foi, un tel a fait ci, par la foi. Relisez. Chapitre 11, malheureusement, on ne lit jamais suffisamment parce qu'il est jamais, il n'est pas complet dans la liturgie. Mais c'est génial, par la foi, Isaac donna Jacob et Isaü, par la foi, les murs de Jéricho tombèrent, par la foi. Et puis, une fois qu'il a fini de donner tous les personnages de l'Ancien Testament, il dit, voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes enveloppés d'une nuée de témoins. Et donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, les personnages de l'Ancien Testament sont comme nous, ils sont anachroniques par rapport à l'acte final du salut. C'est-à-dire qu'on est, c'est nos compagnons de route, parce qu'eux aussi, ils ne sont pas encore pleinement arrivés à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas encore pleinement reconnu. Et c'est des vrais compagnons de route parce qu'ils n'ont pas encore... Et en fait, c'est très beau. Et c'est pour ça qu'on les aime tant. Ils ne sont pas encore... Nous non plus, on n'est pas encore pleinement arrivés.
C'est nous qui leur faisons rencontrer Jésus.
Alors, en quelque sorte, nous, on les fait rencontrer Jésus.
C'est-à-dire que Jésus, trop hébreux, il dit qu'il ne fallait pas qu'ils arrivent sans nous. C'est quand il dit après, ils se sont fait scier, ils se sont fait couper, machin, tout ça. Mais Dieu ne leur a pas donné le salut parce qu'il ne voulait pas leur donner sans nous.
Oui. Exactement.
C'est nous qui faisons qu'Abraham tend la main à Jésus, en fait.
Et c'est pour ça que souvent on a aujourd'hui, c'est pas faux de fêter Saint Abraham, Saint Isaac, parce qu'enfin, au fond, bien sûr qu'ils n'ont pas eu le salut plénier, en quelque sorte, c'est difficile à dire une fois qu'on est là-haut, mais le salut plénier Jésus le dira de Jean-Baptiste, hein. Jean-Baptiste, c'est le plus grand des enfants des hommes, et pourtant il est le moindre dans le royaume des cieux est plus petit que lui. Il est le dernier prophète, et en quelque sorte, en fait, il n'est pas dans le régime de la grâce encore. Il est dans le régime de la préparation, mais pas de la grâce. Donc jusqu'à Jean-Baptiste, tous ces gens-là, on est supérieur à eux, non pas par notre supériorité, encore que peut-être, je ne sais pas, mais enfin non, certainement pas par notre supériorité, mais par le fait que nous avons reçu une grâce qui fait que nous vivons déjà en sauvé. On est au statut du dessus, en quelque sorte, donc même le plus petit aujourd'hui, on est déjà dans le salut de la grâce, dans le statut de la grâce. C'est pas toi que je vais prendre la grâce.
Merci Jean-Philippe. Alors, on va lire les copies, je pense qu'on peut occuper le radoir, les travaux sont terminés, alors on ne tiendra pas tous. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu peux rester pour la prière.
C'est pour la prière, je peux
prier. Alors, il y aura une partie dedans et une autre partie dehors.
Celles-ci sont pas là. Elles sont pas dans le sac. Merci.
Non. Au début, j'étais là en train de me dire que c'est sur ça.
Attends, je voulais les mettre. Oui, c'est vrai. Oui, il y a quelques rivières.
J'en jette, mais on n'a pas.
Ah bon?
Gardez-le, j'en peux.
Ah oui,
j'ai un.
Ok, Marie.
Non, ma foi est confiante.
Je prends
un petit peu de silence.